Il était une fois en Égypte un certain Osiris, fils d'un dieu et roi de son pays. Il était un bon roi, aimé par son peuple, mais malheureusement son frère Seth l'a tué et l'a découpé en 14 morceaux qu'il a dispersés partout. Mais rassurez-vous, mes amis, ce n'était pas la fin d'Osiris. Grâce à sa femme Isis, qui était aussi sa sœur et la fille d'un dieu, Osiris est revenu à la vie. Isis, après avoir reconstitué le corps, lui a réinsufflé la vie par ses pouvoirs magiques. Ensuite, quelques instants après sa réanimation, Osiris a procréé avec sa femme et il lui a engendré un fils avant de disparaître dans le séjour des morts. Quelques siècles plus tard, en Grèce, quelque chose de similaire s'est produit. La déesse Cybèle est tombée amoureuse d'un jeune berger qui s'appelait Atys. Mais Atys était fiancé avec une princesse, donc par jalousie, Cybèle a frappé Atys de folie. Dans sa folie, il s'est castré lui-même et il est mort. Mais ne vous inquiétez pas, il est ressuscité quelque temps après sous la forme d'un arbre. L'histoire abonde en fait en mythes de résurrection. Vous connaissez peut-être l'histoire de Perséphone qui demeurait 6 mois de chaque année dans le séjour des morts et qui revenait parmi les vivants pour l'autre moitié de l'année. C'était aussi comme une résurrection chaque année. Vous connaissez peut-être la religion de Mithraïsme qui est apparue en Perse et qui a beaucoup de rituels qui ressemble à ceux du christianisme, qui inclut aussi la résurrection. Vous connaissez tous l'argument selon lequel le christianisme ne serait qu'un savant mélange de mythes anciens. Les chrétiens auraient emprunté ou même volé leurs histoires préférées dans tous ces mythes antiques pour créer la supercherie la plus réussie du monde. On présuppose que Dieu n'existe pas, ce qui veut dire que les miracles n'existent pas, ce qui veut dire que la résurrection n'est qu'un canular, énorme. Mais en fait, sans la résurrection, le christianisme est vide de son message d'espérance et de sa crédibilité. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pâques? Selon les grands sceptiques, rien. Le christianisme est un mythe qui n'est pas plus intéressant que ceux qui sont venus avant. Mais selon la Bible, il s'est passé quelque chose le jour de Pâques qui a changé le monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 9, nous découvrons ce qui s'est passé juste après qu'on ait découvert que le tombeau de Jésus était vide. Lisons alors Jean, chapitre 20. Versets 1 à 9. Jean 20, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te demandons de nous guider dans la vérité de ta parole aujourd'hui. la vérité de ta parole, qui est une lampe à nos pieds. Et Seigneur, éclaire notre compréhension de ce texte aujourd'hui afin que nous soyons instruits pour notre édification et pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à garder cet enseignement dans notre cœur et dans notre esprit et de mettre en pratique ce que nous allons apprendre aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pâques? Ces versets nous donnent un premier indice qui montre qu'il se passe quelque chose d'assez inhabituel ce jour de Pâques. On ne sait pas ce qui se passe, mais on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Le corps de Jésus n'est pas dans le tombeau. Pourtant, Jésus est mort quelques jours auparavant. Il est censé avoir été enseveli. Mais son corps a disparu. C'est pas normal. Et donc, ce jour qui commence dans la confusion, parce qu'on ne sait pas où est Jésus, se poursuit avec les disciples qui viennent vérifier par eux-mêmes sa disparition et s'achève avec une petite analyse rétrospective de ce que Jésus avait dit et promis. Nous allons nous intéresser maintenant à chacun de ces événements dans l'ordre où ils nous sont rapportés dans ce texte. On commence donc par la confusion, par le désespoir, par la panique. Vous avez remarqué que les gens courent beaucoup dans ces premiers versets. Marie arrive le matin et en voyant la pierre qui a été enlevée, elle court trouver les disciples. Ensuite, ayant reçu la nouvelle, Pierre et un autre disciple courent dans l'autre sens vers le tombeau. On a des gens qui courent partout dans ce texte. En fait, on n'a pas l'impression que Marie ait pris le temps de réfléchir à la situation, en fait. On a plutôt une impression de panique et de désordre dans ces versets. Le texte ne dit pas que Marie a regardé dans le tombeau pour vérifier que Jésus n'y était pas, bien qu'elle ait peut-être fait, on ne sait pas. L'impression que nous donne le texte, c'est plutôt qu'elle s'est retournée tout de suite et qu'elle s'est enfouie. Elle était complètement bouleversée. Ensuite, elle raconte aux autres que Jésus n'était pas là en disant « On a enlevé le Seigneur. On a enlevé le Seigneur. » Qui est « on » On ne sait pas. Marie ne sait pas. Elle n'a pas réfléchi. Elle réagit tout simplement. On voit bien cette confusion qui règne dans ces premiers versets. On voit qu'il y a beaucoup de questions qui se bousculent dans la tête de Marie. Ensuite, Pierre et les disciples que Jésus aimait réagissent avec cette même confusion et ce même trouble dans leur esprit. Pour ces gens, c'était un genre de chaos émotionnel, un mélange d'espoir, de peur, de colère peut-être aussi, de questions. Et donc, étant conduits par toutes leurs questions et leurs curiosités, ils se sont précipités au tombeau. Comment comprendre cette émotion-là? Leur maître, leur rabbin, leur meilleur ami est mort violemment et maintenant son tombeau est vide. Quelle confusion, quelle perplexité! Qui était ce Jésus, après tout? Les disciples ont pensé qu'ils étaient quelqu'un de grand, de puissant. Maintenant, il est mort et on a perdu son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel bouleversement, quel chaos! Jusqu'à ce moment-là, on n'a aucune idée si Jésus est bel et bien celui qu'il prétend être. Quelques jours auparavant, il était acclamé par la foule. Maintenant, il est mort. Alors peut-être que vous avez connu ce genre de sentiment dans votre vie. Peut-être que vous avez connu la mort soudaine de quelqu'un de proche. Ou un événement qui n'était pas censé se passer. C'est troublant, c'est surréaliste dans un sens. Comme un tableau de Salvador Dali. Je pense à lui, surréaliste. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau, c'est grotesque, je ne comprends rien. Et même quand on a le temps de réfléchir à ces questions, la confusion demeure. Mais pire encore qu'une peinture ou un film surréaliste et absurde, dans ce texte, Marie, Jean et Pierre sont confrontés à tous les doutes, à toutes les questions, à toutes les peurs et à tous les espoirs provoqués par les événements récents qu'ils ont traversés. Peut-être aujourd'hui, vous venez au culte de Pâques avec les mêmes doutes, les mêmes questions, la même peur ou le même espoir que les disciples. Nous avons tous abordé le contenu de la Bible en nous posant les mêmes questions. Qu'est-ce que ça raconte? Un miracle? Un canular? Qui est ce Jésus qui a changé le monde? Et c'est bien de se poser ce genre de questions des fois. Mais il est possible aussi que vous soyez venu à ce culte de Pâques tout en ayant peur de vous approcher du tombeau de Jésus. Est-ce qu'il peut vraiment changer ma vie? Est-ce qu'il peut vraiment m'offrir une espérance pour l'avenir? Est-ce qu'il est vraiment le Seigneur comme il a prétendu? Je vous assure qu'il y a une réponse à ces questions. Nous devons passer à la confusion, à la vérification. Nous devons passer de la confusion à la vérification. C'est justement le deuxième point de ce texte. Nous lisons au verset 5 à 8 qu'après avoir couru au tombeau de Jésus, deux disciples, Pierre et le disciple que Jésus aimait, ont découvert un tombeau vide avec des bandelettes et le linge qui ont été mis soigneusement de côté. Alors le disciple que Jésus aimait arrive en premier, mais il n'ose pas entrer. Ce disciple est probablement Jean, qui a écrit cet évangile et qui emploie les noms des autres disciples dans le récit, mais jamais le sien. Au cas où vous vous poserez la question, ce n'est pas que Jésus a aimé Jean plus que les autres, mais Jean est en train de dire tout simplement qu'il est quelqu'un que Jésus aimait. Il est un disciple de Jésus. Mais bref, ces deux disciples surmontent leur peur, leur appréhension, ils entrent l'un après l'autre dans le tombeau pour vérifier ce que Marie leur avait dit. Et cette vérification de la résurrection de Jésus s'est faite par deux moyens au moment où ils entrent dans ce lieu. Elle est faite en raison de ce qu'ils n'ont pas vu et ensuite en raison de ce qu'ils ont vu. Premièrement, ils n'ont pas vu Jésus, tout simplement. Son corps a disparu. Deuxièmement, et c'est encore plus important dans le texte, ils ont vu une grosse pierre qui a été enlevée de devant la porte. Ce qui nous indique que soit les Romains ont déplacé le corps de Jésus, soit quelques disciples de Jésus ont dérobé le corps pour faire circuler l'idée que Jésus est ressuscité. Mais ni l'une ni l'autre de ces options n'est crédible. Les Romains n'ont rien à gagner à faire disparaître le corps de Jésus. Et une bande de simples ouvriers, les disciples, n'auraient jamais pu s'en prendre à la garde romaine pour accéder au tombeau et survivre. Ce n'est pas probable. L'histoire qui a suivi est claire. Personne n'a jamais pu produire le corps de Jésus. La pierre qui a été enlevée est le signe d'un miracle. Mais les disciples ont vu quelque chose d'autre qui était très étonnant. Ils ont vu des bandelettes qui enveloppaient le corps de Jésus. Et pourquoi aurait-on enlevé le corps et laissé les bandelettes et le linge? C'est pas très logique. Encore, il y a quelque chose qui cloche là. Ce n'est pas honnête historiquement, ce n'est pas crédible logiquement de suggérer que quelques disciples qui se sentaient abandonnés et terrorisés aient pu voler le corps de Jésus en laissant derrière les bandelettes. L'équivalent aujourd'hui, ce serait par exemple que mes 4 enfants, qui ont moins de 8 ans, terrassent un boxeur professionnel dans sa propre maison, l'attachent avec des cordes et volent toute la nourriture de son frigo en laissant toutes les boîtes, les canettes et les sacs dans des piles soigneusement trier. C'est pas très logique. Impossible pour la police de résoudre le mystère, et pour cause, c'est absurde. Il est important de noter que le texte indique une corrélation entre ce constat oculaire et le fait que Jean croit. Le texte ne mentionne jamais le mot foi. C'est intéressant. Le fait que Jean croit, à la fin du verset 8, résulte des preuves qu'il a vues, des choses qu'il a vues. C'est le résultat de tout ce que Jésus a fait, de tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jean voit maintenant. Alors là, ici, je confesse que philosophiquement, le tombeau vide est une condition nécessaire, peut-être, mais pas suffisante pour justifier le fait de croire à la résurrection. Ce qui justifie cette conviction de la résurrection, c'est le fait que Jésus soit apparu 12 fois aux gens après sa résurrection, selon le Nouveau Testament. C'est beaucoup. Ces faits que constituent la crucifixion, le tombeau vide et les apparitions de Jésus ont complètement transformé les disciples. Ils étaient des lâches qui n'étaient pas capables de prier avec Jésus pendant une heure la nuit où il a été arrêté. Ils sont devenus des évangélistes intrépides. C'est incroyable. Et nous aussi, nous pouvons vérifier la réalité historique de ce que Jésus a fait. Nous pouvons étudier les évangiles, ces biographies fiables de la vie de Jésus. Nous pouvons reconnaître les références historiques en dehors de la Bible qui confirment l'histoire de Jésus aussi. Nous pouvons voir que personne n'a jamais retrouvé le corps de Jésus. Il n'a jamais proposé une meilleure explication de ce qui s'est passé. On ne devrait pas avoir peur de l'histoire, du passé. Si on l'étudie attentivement, on verra que l'histoire œuvre pour l'Église. Ça œuvre pour l'Église, pas contre elle. L'histoire confirme la Bible et souligne la vérité de l'Évangile. Enfin, c'est mon troisième point, après que Jean ait parlé de la vérification de l'absence du corps de Jésus dans le tombeau, il ajoute un détail intéressant, une sorte de remarque rétrospective. Il ajoute qu'à ce moment-là, les disciples n'avaient pas compris l'Écriture qui avait déjà prévu la résurrection de Jésus. C'est intéressant ça. Ce que cela nous montre, c'est encore une fois que les disciples n'auraient pas pu mettre en scène une fausse résurrection parce qu'ils ne s'attendaient pas à la résurrection. Ce que Jean est en train de dire, c'est que l'historicité de la résurrection n'est pas basée sur une préconception, mais bien plutôt sur le constat oculaire de ce qui s'est passé. Mais même en considérant l'Écriture rétrospectivement, je me pose la question de savoir à quel texte Jean fait référence ici dans ce verset. Étant donné que le mot « Écriture » dans ce verset apparaît au singulier, certains commentateurs disent qu'il parle d'un texte spécifique comme Osée chapitre 6 verset 2 par exemple, qui dit « L'Éternel nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » C'est possible, mais je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas sûr que Jean ait pensé à un texte aussi obscur que ce verset en Osée chapitre 6. C'est peut-être plus vraisemblable qu'il fasse référence à l'Écriture dans son ensemble, qui raconte le plan rédempteur de Dieu. Mais on ne sait pas. Pour Jean, la victoire du Messie sur la mort est nécessaire à l'achèvement du plan salvateur de Dieu. C'est dans l'Écriture, c'est dans l'Ancien Testament. Mais bien que les prophéties concernant Jésus soient vitales pour ce qui concerne la crédibilité de sa mort et sa résurrection, le fait que Marie, Pierre et Jean découvrent ces choses indépendamment de la prophétie donne encore plus de crédibilité à ces événements. Ce n'était pas prévu pour eux. Imaginez que vous embarquiez sur un petit bateau pour explorer le monde et pour peut-être découvrir un pays inconnu du reste du monde. Vous voyagez pendant quelques semaines et finalement vous arrivez dans un beau pays que vous avez jamais vu. Vous restez quelques temps afin d'explorer le terrain et ensuite vous revenez en France et vous racontez tout ce que vous avez vu à vos amis. Et puis un jour, en lisant un guide de voyage, vous remarquez que toutes les photos et les descriptions de ce livre correspondent exactement à ce que vous avez vu pendant votre voyage. En fait, vous avez découvert la Corse, mais dans l'ignorance. C'est-à-dire, indépendamment de plusieurs millénaires d'histoire qui attestaient son existence, vous voyez? De même, les disciples ont découvert le Christ ressuscité avant de voir cette réalité dans le livre de l'Écriture. Pour les disciples, la résurrection, ce n'était pas juste une promesse dans un livre, même si ce livre a été inspiré de Dieu. Mais la résurrection était une réalité, une promesse accomplie, une preuve que la foi n'est pas en vain. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on n'a pas le privilège de pouvoir observer les bandelettes dans le tombeau, ni de dialoguer avec le Christ ressuscité. Mais ce qu'on a, ce sont les Écritures. On a les Écritures qui nous font comprendre que Jésus devait mourir et ressusciter. Et je vous assure que pour moi, plus que je lis l'Écriture, plus je suis convaincu par la cohérence de le message de l'Écriture et par la cohérence entre le plan de Dieu et l'accomplissement de ce plan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pâques? Alors, avant de conclure, je vous invite à revenir un instant aux histoires de résurrection que l'on trouve dans les mythes antiques, les mythes anciens. Comment Jésus est-il différent d'Osiris? On doit poser cette question. Comment Jésus est-il différent d'Attis ou de Perséphone ou des autres dieux qui sont ressuscités aussi? Est-ce que nous sommes voués à rester pour toujours dans la confusion, à ne jamais savoir pour sûr qui est Jésus dans ce mélange de mythes et de dieux différents? Je dirais deux choses en réponse à cette question. Premièrement, les mythes n'ont pas jamais été que des mythes. Ça, c'est important. Les dieux et les héros dans ces religions bâties sur des mystères n'étaient pas censés être des vrais personnages historiques. Le fait de leur existence ou de leur non-existence dans l'histoire n'a rien changé pour les fidèles dans ces religions. Ils étaient liés non pas à la réalité historique, mais au calendrier de la nature. Les dieux des mythes n'étaient que des symboles religieux. Par contre, en Jean chapitre 20, dans les évangiles, ces textes nous disent que Jésus a réellement existé, qu'il a réellement été crucifié, qu'il est réellement ressuscité. C'est confirmé par ce que Jean a vu et par ce que Jean n'a pas vu. Il y a une grande différence entre un fantôme qui symbolise la venue du printemps et un personnage historique réel qui a vécu parmi nous. Et différemment de tous ces dieux, Jésus est mort à notre place pour nous sauver. Mais deuxièmement, il n'est pas absurde d'imaginer que tous ces mythes et ces religions mystérieuses nous pointent vers une aspiration innée, commune aux hommes, à savoir le désir d'un Messie, le désir de quelqu'un qui soit plus fort que nous, qui nous délivre des griffes de la mort. Nous voulons un Messie. Nous avons besoin d'un Messie. Le tombeau vide est la réponse à ce besoin, que nous le reconnaissions ou non. Pour ceux qui sont ici aujourd'hui, peut-être que vous êtes croyant, peut-être que vous êtes sceptique, peut-être que vous croyez, mais qu'il reste encore certaines questions, certains doutes concernant l'histoire de ce grand miracle. Mais quel que ce soit votre cas, je vous encourage aujourd'hui à ne pas rester dans la confusion et dans l'incertitude. Entrez comme Pierre et comme Jean. Regardez ce que l'histoire nous raconte et ne craignez pas. Vous avez à votre disposition presque 6000 anciens manuscrits grecs du Nouveau Testament. C'est pas mal. Vous avez à votre disposition une douzaine de témoignages non chrétiens comme ceux de Joseph, de Lucien de Samosate, de Tarus, de Tacite, de Pliny et même le témoignage de Talmud des Juifs qui parle de Jésus aussi. Vous avez à votre disposition la cohérence de la Bible qui nous raconte et qui nous explique la nécessité d'un Messie. Et vous avez le fait que la mort de Dieu le Fils sur la croix est la réponse à la condition humaine la plus logique et la plus cohérente par rapport à tout ce que nous pourrions imaginer. Vous avez à votre disposition la possibilité de faire confiance à un Dieu plus fort que nos péchés, plus fort que la mort, plus fort que tous nos doutes, nos peurs et notre perplexité. Je vous invite à la prière. Seigneur, cette histoire du tombeau vide est la meilleure histoire que nous pourrions jamais lire, parce que c'est une histoire vraie qui nous raconte comment tu nous as sauvés, nos péchés, comment tu nous as sauvés de la mort. Et quel privilège que nous avons en tant que chrétiens, Seigneur, de pouvoir célébrer Pâques et de nous souvenir encore une fois de ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus, notre Sauveur, toi qui as vaincu la mort. Amen.